Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente matinée.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et le début de l'émission préparée par Michel et Marie-Jo, l'heure flamande. Nous démarrons cette émission par une petite salutation à Karel, un fidèle auditeur qui habite Bredune et qui nous a fait nous a sollicité pour parler un peu de Wiltura, qui vient de fêter ses 80 ans en août dernier, un chanteur flamand, chanteur né à Furne, de son vrai nom Arthur Blancard. Il est né le 2 août 1940 à Furne. C'est le quatrième d'une fratrie de 5 enfants. Il a une discographie particulièrement abondante de 1963 à 2012. Le dernier, Ich bin ein Sänger, The Moist Drum. Difficile de citer tous ces titres. Vous avez eu, lors de nos émissions, maintes fois l'occasion d'écouter ces titres. Et je vais d'ailleurs faire suivre cette intervention avec un titre de Norderwind de Wiltura.
In het vale ochtendlicht lijkt zo doodvervelend stil. En ik loop hier wat verloren, ik weet niet goed meer wat ik wil. Maar de wind die laat zich horen, want een hevige storm is op til. Gaan telkens weer als eb en vloed. Vreemd dat ik niet kan verklaren wat me zo weemoedig maakt. Als de wind begint te huilen en het schuim op het water ontwaakt, ontwaakt. De noorderwind waait gierend om me heen. De noorderwind snijdt me door merg en been.
D'entendre Will Tura, et il a également, petite précision, été honoré par le premier prix Brussels Catch en 2016. Ça a été remis par Alain Courtois, premier échevin de la ville de Bruxelles, en charge notamment de l'état civil et des seniors. Le chanteur avait présenté également son nouvel album Klein Rolock. Le titre de Brussels Catch sera désormais remis annuellement à des personnalités belges qui ont un lien particulier avec la capitale, avec Bruxelles. Et Will Tura précisait qu'il avait découvert Bruxelles en 1957 lorsqu'il a enregistré la chanson « Bye Bye Love ». Et il a notamment précisé qu'il avait rencontré son épouse à Bruxelles. Bruxelles était sa deuxième maison, expliquait le chanteur.
Et aujourd'hui, eh bien, nous allons vous emmener sur la côte flamande à la visite de la commune de Zuidcote. Alors, quand on évoque bien sûr ce nom, la grande majorité d'entre nous, eh bien, pense immédiatement au film d'Henri Verneuil, Un week-end à Zuidcote, inspiré d'un roman témoin de Robert Merle, qui avait été d'ailleurs fait prisonnier sur cette plage de Zuidcote en juin 40. Alors, il s'agissait donc bien sûr de l'opération Dynamo, dont on fête cette année le 80e anniversaire. Évidemment, ce film a eu un immense succès, d'autant qu'à l'affiche, il y avait déjà l'acteur célèbre de Jean-Paul Belmondo. Alors, bien sûr, la commune de Zuidcote a gagné en notoriété et on ne peut pas non plus, bien sûr, résumer la ville de Zuidcote à cet seul épisode de son histoire, donc de cette opération tragique Dynamo qui a vu, bien sûr, beaucoup de soldats, certes, qui ont pu regagner l'Angleterre, mais aussi beaucoup ont été faits prisonniers. Et donc nous allons visiter cette, à travers l'histoire bien sûr, et puis aussi à travers la ville de Zuidcote.
J'étais d'une neige folle à l'école du vent, à quel âge tu nais tous à mes pieds nus d'enfant. J'étais d'une neige danse avec ta tête immense, je dis tu n'es m'endors, petit croissant de lune, au lit du sable d'or. Au lit du sable d'or. J'étais d'une neige coup, comme appelle l'amour. Au clair de cette dune où tremblent les oyas, il y dans sa plus d'une fille avec son gars. Et pétale à pétale, leurs deux corps s'enlaçant, font une rose pâle, font une rose pâle.
d'or.
Je dis d'une un texte d'André Devin, un poète de la région de Dunkerque, interprété par Maric.
Maric qui nous a quittés il y a quelque temps cette année. Alors donc aujourd'hui nous allons parler de Zuijkoot. Alors Zuijkoot est un nom bien flamand bien sûr. Alors il y a deux thèses à propos de son nom. Zuijkoot qui voudrait dire en français côte du sud. Mais ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de Noordkoot. Alors il y a une deuxième thèse qui présente plutôt notre formule, c'est-à-dire ça serait Zuijkoot, donc Zuut c'est le sel et Koot la cabane. Et donc ce qui voudrait dire que simplement sur ce site il y avait une exploitation de sel à une certaine époque. Alors évidemment Zuijkoot était tout d'abord un petit hameau, justement un petit hameau de pêcheurs, d'exploitation donc un peu de sel, encerclé par des dunes. Une première église a été construite en bois vers les années 650 avec l'évangélisation de la région par le célèbre saint Éloi. Le petit hameau de Zuijkoot très vite a deux adversaires auxquels il doit faire face. La nature qui est parfois rebelle avec des incursions marines qui mettent en danger ce petit hameau. Et aussi les Vikings qui longent les côtes de la mer du Nord et qui viennent parfois piller, hein. De temps en temps ils veulent aussi rentrer en commerce, hein. Ce ne sont pas que des sauvages contrairement à ce qu'on veut véhiculer, mais bien sûr ils sont attirés par les richesses, en particulier par l'abbaye de Berg qui est une abbaye très importante et qui est très riche, et évidemment ça attire les convoitises. Régulièrement, la mer, donc, par forte tempête, menace le village. Les habitants, certes, construisent une digue pour les protéger, mais la mer est la plus forte et c'est ainsi qu'au IXe siècle, le village est complètement englouti. Les habitants doivent aussi faire face donc à ces invasions de Vikings, de Normands, et donc évidemment le comte de Flandre, il veut protéger son territoire et donc il se décide à bâtir bien sûr des remparts. C'est ainsi que Baudouin II, dit le Chauve, va fortifier le secteur et en particulier la ville de Berg qui est souvent la plus attaquée. Et Zuijkoot dépend d'ailleurs de cette ville de Berg. Et donc on protège aussi Zuijkoot par un jeu de remparts et aussi de milices pour protéger les habitants. Alors Zuijkoot petit à petit, de petit hameau de pêcheurs, prend de la prospérité. Il va faire un peu sa place. Les habitants sont de plus en plus nombreux jusqu'à une terrible tempête en 1200 qui va une nouvelle fois ruiner totalement le village. Et va d'ailleurs, même la mer va engloutir une grande partie de ce village, envahir par les eaux et donc faire de nombreuses victimes, bien sûr.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlak land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en boroostwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land.
wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht onze nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileen is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlakke land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft, of dampend het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
Jacques Brel, vous chantez Mon plat pays, mein Vlakland. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons donc la ville de Zuidkot. Zuidkot, donc, qui avait subi une terrible tempête en l'an 1200 et qui va d'ailleurs complètement ruiner le village. Une grande partie d'ailleurs sera engloutie sous les eaux. Mais c'est que ces Flamands de Zuidkot sont obstinés et ils n'abandonnent pas leur village. Au contraire, ils vont le reconstruire. Et petit à petit, ce village va même devenir une ville assez importante pour demander une charte communale. Mais le comte de Flandre leur refuse, laissant Zuidkot sous l'autorité de la châtellerie de Bergen. Zuidkot continue à prospérer, et en particulier, en plus de son activité de pêche, eh bien, une activité importante de draps. Zuidkot est une véritable ville dès le XIVe siècle, et qui a son importance. La ville est secouée aussi, bien sûr, malheureusement, par les troubles qui eh bien, traversent toute la Flandre. Les Flamands se révoltent contre le comte. Cette révolte, elle est d'ailleurs menée par les Brugeois, avec à leur tête un célèbre meneur, Nicolas Zannekin. Le comte de Flandre, Robert de Cassel, rencontre les représentants des émeutiers à Zuidkot, justement. Mais ce comte de Flandre leur tend un piège et il les fait massacrer. La révolte des Flamands, bien sûr, sera encore plus violente puisqu'ils ont décidé, tout simplement pour venger leurs représentants qui ont été ainsi lâchement massacrés, eh bien, ils viennent ravager une grande partie de la côte. Et malheureusement, Zuidkot, ayant été le théâtre de justement de cette lâcheté, sera lui aussi saccagé. Nous sommes alors en 1324. La Flandre, rappelons-le, est aussi vassale du royaume de France. Et le roi de France, bien sûr, n'apprécie guère ces mouvements importants de révolte. Et donc, il a décidé de mater les rebelles. Ça sera la bataille de Cassel de 1328 qui va mettre un terme à cette révolte. Et Zuidkot en sort totalement ruiné. Les habitants, eh bien, néanmoins, même s'ils ont le genou à terre, sont décidés de se redresser. Ils vont à nouveau reconstruire leur ville petit à petit et retrouver une certaine prospérité. Mais hélas, décidément, Zuidkot ne sera pas encore épargné par les épreuves. Une fois encore, Zuidkot va subir une nouvelle invasion marine en 1404, et cette invasion marine sera d'une telle ampleur que le port, il est complètement détruit, enseveli sous le sable. Zuidkot décide alors de renoncer à devenir un grand port. Il restera ce petit port de pêche.
Thank you. het rijst, eenzamen grijs, touwt Belfort zinbeeld van verleden. Somber en groot, steeds stom en dood, treurt oude held op het Gent van heden. Tot hij soms rilt en eensklaps gilt zijn bronzen stem weer door de steden. Trilt in uw gracht, trilt Gentse helden, gij Jan Guillaumes, gij Artevelden, mijn naam is Roland, ik klep brand en luid de storm in Vlaanderen land. Een bond verschiet, schept bronzen lied, prachtig weert overend mij voor dogen. Mijn ziel erkent weer het oude Gent, het volk komt gewapend toegevlogen. Het land is in nood, vrijheid of dood, de gilden komen aangetogen. Zie Jan Guillaumes, zie Dartevelden, en stormend roept Roland de helden. Mijn naam is Roland, ik klep brand.
Will Ferdy vous interprétait Cloque Roulante. Vous êtes à l'écoute de l'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous consacrons ce numéro de l'Heure Flamande à la ville de Zuidkot. Alors, Zuidkot fait partie, bien sûr, de la Flandre. Et à l'époque, eh bien, Charles Quint, qui est comte de Flandre, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire germanique, va accorder à la ville de Zuidkot ses armoiries, qui sont composés de l'aigle impérial à deux têtes, accompagné de deux lions de Flandre. Et c'est toujours aujourd'hui ces armoiries qui sont bien sûr arborées par la ville de Zuidkot. Pour faciliter le commerce, eh bien, on va construire un canal qui va relier Dunkerque à Furnes, qui va donc traverser la cité de Zuidkot. Ce canal est connu d'ailleurs sous le nom de canal de Furnes. Il va faire l'objet régulièrement de travaux d'agrandissement, bien sûr, puisque les péniches sont de plus en plus importantes, ce qui permet bien sûr à Zuidkot eh bien, de relier, de faciliter le commerce. Il est d'ailleurs, il y a quelques années un pont qui enjambait ce canal de Furnes, ces ponts typiques de notre région qu'on appelle les ponts hollandais. Malheureusement, aujourd'hui, ce pont a disparu, il a été remplacé par une structure plus moderne. Ce canal a été construit pour la première fois, donc creusé, en 1641. En 1658, Zuidkot se trouve en première ligne avec la fameuse bataille des Dunes qui sera remportée par Turenne. Alors Zuidkot va être rattaché au Royaume de France avec le traité d'Aix-les-Chapelles de 1668. Zuidkot, suite à tous ces conflits, et bien malheureusement va connaître une récession sévère. Et le nombre de ses habitants va diminuer de façon importante puisque on recense en 1715 à peine 200 habitants. Zuidkot subit une nouvelle fois une terrible tempête de mer. Le village disparaît quasiment à plus de 80% sous le sable. Et d'ailleurs, l'église, eh bien, il n'en restera plus que la tour, une grande tour qui va d'ailleurs servir un petit peu de repère pour la navigation. Et la tour restera le témoignage de cette terrible tempête qui avait enseveli quasiment le village entier. Zuikot, une nouvelle fois, eh bien, va prendre son courage à deux mains et va à nouveau se reconstruire petit à petit. Naturellement, le nombre d'habitants ne va pas grandir beaucoup, compte tenu, eh bien, tout simplement des dangers maritimes, et cela peut se comprendre. Et d'autant que, une fois encore, eh bien, Zuikot va connaître bien sûr les affres de la guerre, avec en particulier la période napoléonienne. Napoléon, qui craint que les Anglais débarquent sur la côte flamande, eh bien, va naturellement armer toute cette côte, et donc Zuikot, bien sûr, va être transformé en fortin avec plusieurs batteries de canons pour éviter naturellement que les troupes anglaises viennent simplement poser pied sur l'Empire français. Zuikot aura bien du mal à s'en remettre de toutes ces mésaventures, aussi bien des faits de guerre que de ces invasions marines. Et ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que la ville va enfin retrouver un développement grâce à une nouvelle activité, celle de, eh bien, du goût des gens à aller sur la plage pour se détendre et pour bénéficier du bon air de la mer.
le groupe Laïs, vous interprétez de Walseseman, le faux marin. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3.
Et nous consacrons ce numéro donc à la ville de Zuikot qui connaît bien des soucis avec la mer. Cette mer qui est bien sûr une nourricière, qui leur permet bien sûr aux pêcheurs de gagner leur vie, mais aussi eh bien malheureusement ils paient un tribut très lourd. En 1888, une nouvelle fois, la commune va être victime d'un puissant raz-de-marée qui va faire de très nombreuses victimes. En particulier justement parmi les pêcheurs, puisqu'il y a plus d'une quarantaine d'entre eux vont perdre la vie. La ville de Zuikot, eh bien, malgré tout, courageuse, va se remettre à l'ouvrage et bien sûr elle va bénéficier de ce mouvement pour l'engouement des gens des grandes villes pour la mer, pour respirer le bon air iodé de la mer du Nord. Et puis aussi, eh bien, c'est une mode hein, qui est en train de s'installer petit à petit. Mais il y a aussi, eh bien, un industriel, Monsieur Van Covenberg, qui est d'ailleurs maire de Saint-Paul-sur-Mer et qui décide, eh bien, de fonder le sanatorium. Le sanatorium qui va donc être mis en service dès 1910. Les premiers malades vont y rentrer. Ils vont, ce sanatorium eh bien, va très vite s'agrandir puisqu'il répond vraiment à un réel besoin. Et c'est donc les travaux vont commencer au printemps 1902 pour accueillir les premiers malades dès 1910. Malheureusement, la Première Guerre mondiale arrive et ce sanatorium eh bien, va être transformé en gigantesque hôpital, puisque de très nombreux soldats de la Première Guerre mondiale vont être soignés là, des soldats anglais, français bien sûr, belges naturellement, puisqu'on est sur la zone de front, pas loin. Il va donc servir aussi lors de la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, d'hôpital pour soigner les soldats blessés, et en particulier lors de cette opération Dynamo en 1940. Zuikot, suite à tous ces conflits, eh bien évidemment, va avoir quelques difficultés à se remettre. Il faut panser les plaies. Parce que malgré que ça soit un hôpital, malheureusement, l'hôpital sanatorium va subir quelques bombardements. Mais le fondateur de cet hôpital avait aussi le souci eh bien, de rendre le plus autonome possible. C'est ainsi qu'il a fait construire dès 1910 une ferme industrielle. C'était une des premières, c'était avant-gardiste à l'époque. Une vaste ferme qui est connue sous le nom de Ferme Nord et qui va donc permettre à l'hôpital d'être quasiment en autarcie, puisque cette ferme non seulement fournit les légumes bien sûr, mais aussi la viande, les œufs, et elle possède même son propre abattoir. Ce sanatorium, il a une architecture assez particulière, dite néo-flamande, avec des murs, donc un petit peu ce qu'on appelle vulgairement en tranche de lard, puisqu'il est composé à la fois de briques et de pierres de la Meuse, des pierres blanches. C'est un bâtiment assez impressionnant. Aujourd'hui, naturellement, il a changé de vocation, puisque maintenant il est devenu un centre pour, en particulier pour la sauvegarde du littoral.
Vlinder die niet meer komt op zoek naar het licht. Met jou komt de zon aan de hemel heel dicht. Ik wist niet meer waarheen, was soms zo alleen. O, laat me niet meer alleen.
vlinder die niet meer kon, een zwemmer in nood, op weg naar de kust, verlaten of dood. Ben jij mijn laatste boot, neem jouw boot en roei. O, laat me toch niet alleen.
Eric et San, Not Mehr Alleen, plus jamais seul. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc nous évoquons la ville de Zuidkot, la ville de Zuidkot qui a aussi décidé de créer un cimetière militaire pour recevoir bien sûr les nombreux morts militaires des deux guerres mondiales, de la première et de la seconde. On y trouve des tombes de soldats français bien sûr, mais aussi des tombes de soldats anglais et aussi un carré qui est réservé aux soldats allemands. Zuidkot bien sûr est réputé pour aujourd'hui pour ses plages, ses dunes. Écoutons ce texte justement à propos des plages, ce texte de... Et on écoute Marie-Jo.
Plage vide, avec toujours les mêmes flots, poussant les mêmes cris et les mêmes sanglots, de l'un à l'autre bout des rivages de Flandre. Dune d'Oya aiguë, mont de sable et de cendre, pays hostile et dur et féroce souvent, pays de lutte et de fer, pays de vent, pays d'épreuve et d'angoisse, pays de rage, quand s'acharnent sur vous les tournoyants orages, et leurs vagues d'hiver dressant toujours plus haut sous les brouillards leurs funèbres monuments d'eau. Soyez remerciés d'être tels que vous êtes, tel que la mort, tel que la vie et ses tempêtes. C'est grâce à vous qu'ils sont fermes et durs, les gars, qu'ils sont têtus dans le travail et dans la peine, qu'ils font sans le savoir belle la race humaine qui marche à larges pas vers le péril la gare avec le seul désir de vaincre un destin morne. C'est vous qui faites l'homme ardent, calme, hautain, entre le danger d'hier et celui de demain. Quand le sombre équinoxe et ses ouragans cornent. C'est grâce à vous que les filles aiment dûment, malgré la crainte au cœur d'être trop tôt des veuves, ceux qui s'en vont sans se plaindre, dans l'âpre épreuve, gagner le pain des jours avec acharnement. Et que toutes, à l'heure où les rues de tendresse mêlant les chairs au fond des chaumières, là-bas, servent le franc repas d'amour aux hommes là de la brume sournoise et des houles traîtresses. Pays des vents de l'ouest et des bises du nord, souffle chargé de sel et pénétré d'iode, vous imprégnez les corps rugueux de santé chaude et vous armez de père en fils les peuples forts. Pour qu'ils marquent de leur vouloir autoritaire le coin triste mais doux que leur offrit la terre. Et qu'importe qu'au long des flots la ville un jour ait bâti ses maisons, ses dômes, ses tours et ses palais pareils à des rêves de pierre. Filles et gars de Flandre, au seul vous resterez d'accord avec l'embrun et les grands vents et la rauque marée et ses vagues guerrières. Vous êtes ceux du sol qu'on ne refoule pas. La mer a mis en vous sa force et sa folie. Vos yeux sont beaux de sa clarté froide et pâle, et son rythme puissant et lourd pèse en vos pas. Même certains d'entre vous, les plus hardiment braves, charrient encore le sang des aïeux scandinaves dans leurs gestes épars au loin sur l'océan. Ils conservent en eux l'ardeur de ces géants qui partaient vers la mort sur leur vaisseau enflammé, sans foque, sans matelot, sans boussole, sans rame, et se couchaient à l'heure où le soir est vermeil, ivre, dans un tombeau de flots et de soleil. Donc, poème d'Émile Verhaeren dans un album appelé La Guirlande des Dunes, intitulé Les Plages.
Et qui s'adapte très bien donc à cette ville de Zuikot qui a connu bien des épreuves. Et d'ailleurs, la commune, eh bien, se veut un village mer et nature. Elle veille en particulier à la protection de ce cordon dunaire qui est pour elle vital. Non seulement, bien sûr, pour la beauté des paysages, de la diversité de la faune et de la flore, mais surtout aussi, bien sûr, comme on l'a évoqué tout au long de cette émission, parce que ce cordon dunaire, eh bien, c'est aussi une protection, c'est une question de vie, de protection du site face à cette mer qui est parfois redoutable. Alors, il y a deux sites particuliers à visiter, avec, bien sûr, toutes les précautions nécessaires. Pour respecter la nature, c'est la dune Marchand qui s'étend sur 116 hectares. C'est une réserve naturelle depuis 1980. Et il y a aussi la dune de Wulf qui est aussi un site naturel particulièrement remarquable qui garde d'ailleurs un aspect très sauvage encore, mais naturellement très fragile. Il fut territoire de prédilection pour les chasseurs car le gibier était à l'époque très abondant. Cette dune s'étend sur près de 300 hectares. Elle est classée d'ailleurs réserve naturelle. Il reste bien sûr parmi ces dunes des plantes particulières, mais aussi on veille à ce que, bien sûr, on plante des zoyas, ces zoyas piquants, qui possèdent des racines très profondes, qui permettent justement de maintenir le sable. L'argousier, c'est un petit arbrisseau épineux, qui lui aussi permet de maintenir le sable sur place. Et parmi toutes ces plantes, il y a aussi la pensée sauvage, qui est connue aussi sous le nom de Violette de Curtis, et que je vous invite bien sûr à admirer et non pas à cueillir pour respecter justement la beauté de ce paysage. Quand on se promène en ville de Zuikot, eh bien on peut aussi s'étonner de voir une gare qui aujourd'hui est transformée en pharmacie. On voit sur le fronton encore cette inscription « Chemin de fer ». Alors aujourd'hui, il est vrai que, eh bien, on cherche bien sûr les voies et on trouve encore quelques traces de cette ancienne voie ferrée qui est reliée donc Dunkerque à Dunkerque. Aujourd'hui, malheureusement, cette ligne a été condamnée, elle est envahie par la végétation. On peut regretter à l'heure où justement on demande de plus en plus à alléger nos routes de la fréquentation automobile, de favoriser les transports en commun moins polluants. Et on peut regretter que les autorités aient purement et simplement renoncé à relancer cette ancienne voie ferrée, donc qui est reliée Dunkerque à Dunkerque. Peut-être qu'un jour, eh bien, les autorités vont mettre le budget nécessaire pour renouer avec, bien sûr, cette ligne et pour préserver, là encore, eh bien, tout simplement la qualité de vie. Néanmoins, on peut se féliciter de trouver le long de cette voie une piste cyclable de promenade qui est assez confortable pour les marcheurs et on peut y se balader en famille gentiment. Voilà donc quelques sites de Zuikot à visiter. Nous touchons ici déjà la fin de notre émission. Nous espérons vous avoir fait découvrir cette charmante commune de Zuikot que nous vous invitons à visiter. Vous pouvez marcher sur une belle plage qui a été entièrement, bien sûr, nettoyée, car il fut un temps où, naturellement, il y avait encore beaucoup de traces de barbelés, de matériel militaire qui étaient dus en particulier de cette opération de 1940 Dynamo. Nous vous souhaitons une bonne semaine à l'écoute de Radio Plus, bien sûr.
Eindeloze wettes, de zonnevisie. Al wat ooit gezegd is, je laat het achter hier. Want wat blijft er over op het eind van de rit? Wie kan ons vertellen hoe het echt zit? Bergen en valleien, het landschap van de maan. We blijven altijd reizen, welke reis is ooit gedaan? Wij twee hier samen, weg van elkaar. Hier heb je niks te vrezen. Hier is geen gevaar, want je denkt aan niks op Route 66. De wind waait alle zorgen uit je hoofd. Nee, je denkt aan niks op Route 66. We gaan door, altijd door, eindeloos. Elke bron vertroebelt bij een simpele zucht. Elke norm versoepelt met je handen in de lucht. Hier is geen verwarring, enkel één rechte lijn. Een grenzeloos verlangen om altijd weg te zijn. Want je denkt aan niets op de Route 66. De wind waait alle zorgen uit je hoofd. Nee, je denkt aan niks op de Route 66. We gaan door, altijd door, eindeloos, eindeloos. Als ik denk aan de dag toen ik jou voor het eerst zag, de wind door je haar. Ik volg nu je spoor, we gaan altijd door, altijd door, altijd door. Want je denkt aan niks op de Route 66. De wind waait alle zorgen uit je hoofd. Nee, je denkt aan niks op de Route 66. We gaan door, altijd door. Eindeloos, want je denkt aan niks op de Route 66. De wind waait alle zorgen uit je hoofd.
Nee, je denkt aan niks. Op een Route 66. We gaan door. Altijd door. Eindeloos. Eindeloos. Nee, je denkt aan niks. Op een Route 66.
Encore un petit titre de, vous venez d'entendre La Route 66, un nouveau titre de Will Tura. Et nous allons terminer cette émission avec un petit extrait de Vlaanderen Mainland, toujours de Will Tura. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.
Uit de dijk geworpen, vergeten paradijs. Van duizend kleine dorpen, onder wolken grauw en grijs. Met donkergroene heuvels, vervagend in de lucht. Soms wondermooi beschilderd, met een witte duivenvlucht. En nergens valt de regen, zo mals en ruisend meer. En nergens gaat de